Pour la deuxième partie de ce 29e Radio Barque Michel, une histoire de petit train pour nos deux départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude.
Oui, cette semaine était chargée en petit train, Jean-Claude, puisque j'ai noté que dans les Pyrénées-Orientales, le vice-président de la région, nommé Jean-Luc Gibelin, joli nom, hein, Gibelin, vice-président des transports communiste, s'était déplacé donc à Perpignan pour, traiter de ce sujet très important dans ce département. Il ne cesse de me hanter depuis que je suis arrivé dans cette région en 1986 et depuis mes premières fonctions à la région. Ne cesse de hanter, en fait, l'esprit, en fait, des Catalans, en fait, et les cheminots, en fait, de manière générale.
Alias, le
Canari.
Le train jaune.
Parce que c'est le Canari. Il l'appelle le Canari.
Ben oui, il est jaune, mais ça s'appelle le train jaune.
Depuis 1985, je suis arrivé à Perpignan, je n'entends parler que de ce train jaune, que son avenir, que c'était vraiment, il fallait absolument, en fait, remettre en état cette ligne, que c'était vital, que c'était essentiel pour ce département. Donc Gibelin, en fait.
Peut-être un tout petit point rapide d'histoire, Michel. C'est une ligne qui a été construite dans les années, je crois, 1910, dans un gabarit plus petit que le gabarit habituel, qui part du bas du Conflent, de
Villefranche-du-Conflent jusqu'à Cerdagne, là-haut, etc. Et alors c'est vrai que c'est un train touristique, j'allais dire.
À l'époque, c'était une prouesse quand même, la construction.
C'était une prouesse technique, oui. D'ailleurs, une prouesse technique que les Suisses ensuite ont appliquée dans leur propre pays, mais ou inversement, d'ailleurs, je ne sais plus. Bon, peu importe. Et donc, depuis 1987, je n'entends parler que de ce Canari, fait, qui devrait, bon, retrouver des ailes, fait, bon, et puis redevenir, l'axe structurant en termes de mobilité du département.
Parce donc, Gibelin est chroniquement déficitaire, évidemment, et largement.
Largement déficitaire, c'est une catastrophe financière, mais si on s'arrêtait simplement à ça, c'est que monsieur Gibelin arrive dans le département avec...
Avec des sous? Il arrive avec des sous?
Tiens-toi bien. Et il dit la chose suivante, je suis prêt, moi, région, à mettre 65 millions d'euros pour moderniser.
Sur combien de temps?
65 millions pour refaire, bon, ben, je sais rien.
Sur un an?
65 millions. Point. Il n'en dit pas plus. Je suis prêt. Si demain la SNCF s'engage à ce que le projet arrive à son terme, c'est-à-dire que tout soit effectivement réalisé, qui permette une circulation, en fait, et une rentabilité, entre guillemets, bon, ridiculement avancée par ce vice-président de la ligne, je mets 65 millions derrière. Déjà, qu'un vice-président de la région communiste s'engage sur 65 millions d'euros dans ce département pour le Canari, sans avoir, je doute fort qu'il l'ait fait, appeler, Madame Delga pour savoir si elle avait une majorité, à sa commission permanente pour pouvoir en réaliser 65 millions sur cette ligne. Il faut oser.
On a envie de dire, ça mange pas de pain, finalement.
Deux, si tant est que Madame Delga soit d'accord, effectivement, sur la proposition, quand même, Jean-Claude, dans ce pays et dans cette région, comme dans ce département et dans le nôtre, il y a, me semble-t-il, d'autres priorités. On sait très bien qu'un exemple. On sait très bien que dans nos départements, par exemple, on est confronté à un vieillissement de la population. On ne cesse de nous dire que manque des maisons de retraite, manque d'établissements spécialisés, parce qu'il n'y a pas de sous pour en créer de nouveaux. Et là, on nous explique que, on nous vend la marchandise suivante. On est prêt à mettre 65 millions de francs pour faire revivre une ligne de deux trains qui, objectivement, nous représente en termes de, comment dirais-je, d'aménagement du territoire et de mobilité des personnes.
Oui, qui restera
ridiculement faible, quoi.
Qui restera un puissant fond.
Finalement. Exactement.
Oui. Exactement. Oui, absolument. Alors, alors, le deuxième petit train, revenant
pareil,
chez nous entre Narbonne et Bise,
ce qui m'a surpris, pareil, de la même manière, je lis mon journal, du coup, l'indépendant de Narbonne, puis je vois que Alain Perea, notre député, avait fait une déclaration avec photo à l'appui, dans laquelle il présentait un des aspects de son programme d'aménagement, le sien ou je ne sais quoi, structurant de la Narbonnaise, la réouverture de la ligne Bise, Narbonne Bise, aux voyageurs.
Aux voyageurs, ça c'est sûr, ça c'est surprenant.
Alors, je me suis dit, voyons voir. Aujourd'hui, elle marche bien pour alimenter l'usine d'Orano.
Pour les marchandises, particulièrement l'uranium, les minerais d'uranium.
Oui, il n'y a pas de voyageurs qui vont à Orano, au départ de Narbonne. Je me dis, voyons voir, il y a combien de gares entre Narbonne et Bise, en fait, pour alimenter les villages, en fait,
Il y a Salé, je crois.
Ouais, pour Truyas, mais ça, c'était pour aller...
Truyas, c'était pour une zone industrielle.
Donc, tu imagines les voyageurs de Salé aller dans la zone industrielle pour prendre le train de Bise pour venir à Narbonne.
Surprenant.
Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de... Alors, je sais bien que les circuits courts sont à la mode en ce moment, dans le domaine alimentaire, en fait, dans un tas de domaines, quoi. Oui. Mais de là, quand à présenter ce genre de proposition.
De passer des circuits courts aux idées courtes, si tu me permets l'expression.
Oui, c'est un peu ça, oui. Effectivement, tu as bien raison de sortir ce genre de remarques. Mais au motif, quoi, que les circuits courts sont à la mode. Sortir ce genre de proposition, en fait, démagogie
très
totale, à la veille d'élections en plus, comme si cela, pouvait rapporter quelques voix que de dire aux gens de Bise, vous allez avoir un train qui va arriver tous les jours et qui va permettre d'aller à Narbonne en un train. Donc, je trouve ça. Ridicule. Ça, franchement, ça ne grandit pas du tout la parole politique que de se lancer dans ce genre de proposition. Oui.
Alors, les tonneaux, pour conclure, les tonneaux. Alors, qu'est-ce que tu entends par les tonneaux au pouvoir du racisme ?
Tu sais que les tonneaux me sont chers, surtout ceux des Halles.
Il s'agit des tonneaux des Halles.
C'était dimanche dernier.
On a déjà éclairci une part du mystère.
Exactement. Tu sais que, dimanche dernier, comme je le fais tous les dimanches, pratiquement tous les jours, j'étais aux Halles. Rituellement. Il y avait un monde de fous. Un monde de fous. Et je n'entendais parler qu'espagnol autour de moi. Donc, du coup, je me replongeais dans mon enfance.
Il y avait un wagon d'espagnol arrivé par la ligne de Bise.
Des trains, certes. Des trains par le TGV, non pas par la ligne de Bise, ni celle des Canaries. Et bien, c'est pas les mêmes espagnols que ceux de mon enfance que je croisais là quand je m'y rendais, hein. Ils avaient la peau plus pâle, en fait. Et les moins cailleuses, quoi, hein. Direction Belzon, les tonneaux, voilà, les tonneaux de Belzon. Et puis il y avait un monde de fous encore plus que dans la centrale.
C'est la popularité de Gilles Benzon.
Non mais d'habitude le dimanche je passe. Là je ne pouvais pas passer. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'aperçois le dos de Jacques Bascou, immenses d'anciens dirigeants. Mais qu'est-ce qui se passe ?
Le grand staff était là.
Et il a fallu que je rentre, en fait, à la maison pour me rendre compte dans le journal que dans le journal du jour, en fait, on annonçait que une présidence collective de 5, je vais dire tonneaux, en fait, de 5 personnes que je voyais habituellement autour des tonneaux, proposait une présidence collective pour prendre le Racing.
Pour prendre
la suite de M.
Cosinus.
5. Et pas des petits gabarits, quoi. Belzon, Delpoux, Monsieur Marco, Monsieur Ormière, en fait, et puis l'ancien entraîneur dont j'ai perdu le nom, Campos.
Voilà. D'où l'image, les tonneaux au pouvoir.
Donc, au pouvoir. Alors. J'allais dire presque enfin, parce que depuis que je fréquente les Halles, depuis que je suis arrivé à Narbonne et que je me suis installé, ça veut dire depuis l'âge de la retraite, quoi, hein, quand je passe devant ces tonneaux en question, hein, le lendemain d'après-match, on y refait toujours le match, on y refait, en fait, l'équipe dirigeante, on refait le monde, et jamais, effectivement, on se disait, mais on va peut-être y aller quand même pour
l'avenir du club.
Pour montrer qu'on est bon, quoi. Et je veux dire, ils osent, quoi. Ils osent avec quand même une audace inouïe, parce que proposer une présidence à 5,
ouais, c'est
il
un
faut quand même oser, quoi.
Oui,
hein,
mais c'est un symbole et il s'inspire, paraît-il, du Feuseleux à Lézignan.
Ah non, je ne crois pas que ce soit un symbole. En fait, ça a été repris à plusieurs reprises dans la presse. 5. On veut être 5 présidents. Dans le style, sauf que juridiquement, c'est compliqué parce que c'est une association qui est homologuée par la Jeunesse et Sport. Je doute fort qu'elle tolère qu'il y ait 5 présidents. Et puis que de toute façon, il faut qu'il y ait un seul représentant légal. Il faudrait même que dans les 5, il y en ait un qui, effectivement, signe un certain nombre de textes qui engagent pénalement ou fiscalement l'association en question.
Voilà, mais
donc, bon vent à ces 5, hein, et que les tonneaux fassent enfin la preuve autour d'eux, non seulement on boit du bon vin, mais on fait de bonne politique.
Voilà, la bonne nouvelle avant de conclure, c'est quand même que peut-être il y a des gens qui sont encore là pour essayer d'assurer l'avenir du Racing.
Mais après les tonneaux, Jean-Claude, que restera-t-il ?
On marque en tout cas une deuxième pause après laquelle nous retrouvons notre invité du jour, Bernard De Vic.